Bonjour et bienvenue à l'épisode 157 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable de vos organisations. Nous aimons parler d'innovation sur ce podcast et cette semaine, nous avons la chance de discuter avec quelqu'un qui a réussi à créer un nouveau service, voire un nouveau métier, qui n'existait pas auparavant. Quand on entend dire que 80% des métiers de demain n'existent pas encore, il nous fait plaisir de vous en présenter un excellent exemple. Nous sommes toutes et tous familiers avec le cinéma documentaire et avec le reportage. Agathe Torel a trouvé le moyen de fusionner les notions de participation et de création audiovisuelle pour aider et accroître les échanges lors de projets publics. Un exemple innovant de nouvelles technologies ou de démocratisation technologique et de création de nouveaux services bien distincts de ceux qui existent déjà, et ce, au service de la participation publique. C'est justement parce qu'accroître la participation est important dans certaines situations que nous nous intéressons à ces sujets, mais aussi parce que c'est difficile. Difficile pour les décideurs, mais aussi difficile pour les parties prenantes. Agathe Torel est cofondatrice et co-gérante d'Alga Médiation. L'entreprise est née de la rencontre d'Alice Hurlin et d'Agathe Torel et de leur envie d'utiliser la géographie au service d'une utilité sociale et environnementale. Alga Médiation facilite le dialogue entre les différents acteurs d'un territoire par une médiation créative et innovante. Leur approche du territoire est une combinaison de leurs compétences en concertation territoriale, en médiation et en création artistique et audiovisuelle. Alga accompagne les différentes collectivités territoriales, les associations, les entreprises et les chercheurs à la médiation créative. Du stade de la diffusion d'informations à la co-construction de projets, en passant par la concertation, Alga utilise des outils innovants et artistiques au service de ses missions. Films documentaires, photographies, création sonore, facilitation graphique, etc. Alga Médiation travaille pour les projets à impact social et environnemental en étant toujours dans une démarche engagée, créative et humaine. Après une classe préparatoire littéraire et audiovisuelle, Agathe Torel intègre la faculté de géographie de Bordeaux-Montaigne où elle est diplômée d'une licence en géographie et cartographie et d'un master professionnel en médiation, image et expérimentation, toujours au sein du département de géographie. Son intérêt pour la création audiovisuelle et son esprit créatif permettent de renouveler le dialogue citoyen pour mener des projets innovants et inspirants pour les citoyens. Bonne écoute! Bonjour Agathe.
Bonjour.
Agathe, je vous ai rencontrée lors des dernières rencontres européennes de la participation publique. Comment vous est venue l'idée de créer Alga Médiation?
Alors, l'idée de créer Alga Médiation, elle est venue de mes études, plutôt de nos études, parce qu'on est deux associés de cette entreprise. Et en fait, on a fait des études de géographie, et géographie sociale, culturelle et politique. Et au cours de ces études, en fait, on a eu l'occasion de faire un master assez innovant autour de la médiation, de l'image et des territoires. Et en fait, le parti pris de ce master, c'était de dire que actuellement, beaucoup d'écrits permettent de faire des synthèses, de faire de la médiation, etc. Mais que en fait, c'est assez pauvre et que les images ont un pouvoir, à la fois les images illustrées, les images graphiques, les infographies, l'audiovisuel et notamment le cinéma documentaire, ont un pouvoir de synthèse et de médiation que n'a pas l'écrit. Et donc ça, c'était un peu le principe du master.
Ouais.
Et en fait, donc on a fait au cours de ce master, nous, on s'est spécialisé quand même beaucoup dans le cinéma documentaire, parmi toutes les images qu'on pouvait produire. C'est ce qui nous touchait le plus. Et quand je dis nous, c'est du coup, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est Alice Hurlin et moi-même. Et donc du coup, voilà, on s'est beaucoup spécialisé dans le film documentaire parce que c'est ce qui nous parlait le plus. Moi, j'avais une appétence depuis toujours pour le cinéma. Et donc voilà, ça nous a porté.
Ouais.
Et en fait, on a réalisé en fin de master 2, on a réalisé un film documentaire pour la métropole de Bordeaux en tant qu'étudiante. Et le principe, c'était vraiment de prendre des images du territoire pour montrer un peu aux technocrates à quoi pouvait ressembler le territoire qu'ils construisent, qu'ils pensent et comment il est vécu de l'intérieur par les habitants. Et donc l'idée, ça a été vraiment de faire un film documentaire sur donc, une cité proche de notre université qui s'appelle la cité Sège. Et donc on a filmé les paysages, on a filmé aussi beaucoup de témoignages de jeunes, de moins jeunes, sur leur vécu et leur rapport à la cité, et notamment au paysage de la tour, parce qu'il y avait un projet de destruction et de démolition de tour. Et donc on voulait questionner quel était leur lien d'appartenance à ce paysage-là. Donc on a réalisé ce film documentaire-là, et en fait, à la fin de notre petite année de master, on nous a dit, c'est pas « on », mais c'est Domo France, le bailleur social du quartier, nous a dit, a vu le film et nous a dit « combien ça coûte un film pareil ?» Et du coup, on s'est dit « ah, c'est intéressant, ça peut donc être monétarisé », alors qu'on pensait monter une association à côté d'un vrai métier. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas y voir du coup une entreprise et pourquoi pas en faire notre cœur de métier. Et en parallèle de ça, en fait, mon associée Alice Erlin, elle était en stage dans une petite commune en banlieue, enfin pas en banlieue mais en périphérie en quelque sorte de Saint-Émilion, et elle a participé à la création d'un laboratoire d'innovation territoriale. Donc autour de, en gros, le laboratoire d'innovation territoriale, il servait à pouvoir développer de nouvelles pratiques vigneronnes, notamment moins polluantes. Et aussi, c'était pas mal autour de la création d'un tiers-lieu, création d'une nouvelle épicerie pour le village. Donc il y avait pas mal de notions assez innovantes là-dedans. Et donc Alice a suivi un stage pour pouvoir développer ce laboratoire et notamment pas mal piloter à la fois les interactions entre les habitants, les élus et les experts qui venaient des fois sur des thématiques assez spécifiques. Et donc, à l'issue de nos études, en fait, la commune a souhaité et proposé qu'on intervienne en tant que consultante pour continuer à développer ce laboratoire. Et voilà. Et donc, c'est un peu la conjonction des deux, du coup, du monde de la participation citoyenne, de la facilitation et du film documentaire, toujours aussi dans une optique de médiation, qui a fait qu'on s'est dit, bah, créons Alga Médiation pour pouvoir faire ça.
Je dis souvent aux gens qui veulent créer une entreprise, qui ont cette envie ou ce rêve, de trouve-toi surtout un premier bon client. Et vous, vous avez chacune amené un bon client. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est intéressant de voir ça, comment ça part. Peux-tu nous décrire votre proposition de valeur ou nous dire, dans tes propres mots, en quoi Alga Médiation propose quelque chose de différent des autres, entre guillemets, d'autres boîtes de production audiovisuelle ou d'entreprises qui font des sondages ou, comme tu dis, de l'écrit? Ou qu'est-ce qui fait que chez vous, je m'appelle la mairie de n'importe quelle ville moyenne ou même ville importante en France, j'aurais envie de faire affaire avec vous?
Bah, je dirais que c'est vraiment le fait d'essayer de faire tendre l'un pour l'autre, c'est-à-dire la médiation vers l'audiovisuel et l'audiovisuel vers la médiation, dans le sens où donc nous, notre métier, notre cœur de métier, c'est quand même d'accompagner des collectivités, effectivement, mais aussi des chercheurs, ça peut être aussi des bailleurs, à dialoguer et à faire dialoguer autour d'un projet. Et en fait... Notre parti pris et notre différence par rapport à pas mal d'acteurs sur ce marché-là, c'est de le faire avec de la création audiovisuelle, parce qu'on s'est rendu compte que ça avait un impact assez significatif, les images, et notamment la vidéo et le film documentaire. Et donc, du coup, c'est vraiment là où on se différencie, je dirais, des autres agences de consultation de participation citoyenne plus classiques, qui vont avoir beaucoup recours aux réunions publiques, aux ateliers de groupe. On y a recours aussi, mais on limite et on réfléchit pas mal à leur utilisation, parce qu'on sait que c'est toujours les mêmes personnes qui y vont. C'est souvent des personnes de 50 ans, des hommes blancs, lettrés, qui savent très bien s'exprimer à l'oral. Et donc, du coup, On s'est rendu compte parce que justement, quand on a fait le premier projet de film documentaire à Sèges, en fait, les personnes qui nous ont parlé, c'était des jeunes qui avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui traînaient au centre social et qu'on a pu rencontrer comme ça et dont on a pu porter la voix comme ça par la création audiovisuelle. Et si on avait fait un atelier, si on avait fait une réunion publique, ils ne seraient jamais venus. Et donc, du coup, c'est vraiment ça. C'est vraiment... en fait, on réfléchit vraiment nos outils afin de toujours qu'ils soient en adéquation en fait, avec les personnes qu'on a envie d'aller écouter. Et si un territoire... Enfin, si un projet de territoire se fait dans un territoire où la population est majoritairement une population active ou jeune, où on sait que les outils qu'on va mettre en place vont pas être les mêmes.
Ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que quand je parle d'ajouter de la participation dans les projets, on regarde surtout une échelle de participation, hein, jusqu'à quel point le commanditaire est prêt à laisser une partie des décisions prises par les participants. L'aspect moins facile à travailler, c'est l'aspect diversité, justement, d'aller recueillir ces éléments-là. Donc, c'est comment est-ce que vous allez maintenant, hein, à partir de ce point de départ-là dont tu viens de nous parler, vous allez choisir, entre guillemets, les personnes ou les profils de gens pour justement compléter la voix de l'homme blanc d'âge mûr, entre guillemets, qui s'exprime très bien à l'oral comme à l'écrit. Comment est-ce que vous regardez, vous faites une carte de la diversité que vous cherchez en termes d'âge, de race, de sexe, à la limite de langue parlée?
C'est carrément ça. Eh bien, on le fait beaucoup. En fait, nous-mêmes, souvent, on arrive sur des territoires qu'on ne connaît pas spécifiquement. Donc, on le fait beaucoup en collaboration avec des acteurs sociaux du territoire, des acteurs culturels, des acteurs associatifs.
Oui.
En fait, on fait vraiment une analyse de, en gros, sociologiquement, qui est présent dans ce quartier, dans cette rue, dans cette tour, dans ce... Voilà, dans ce ville. Oui. Et en fonction, on adapte les profils qu'on recherche à ça. Par exemple, à Sèges, parce que du coup, on est retourné, quelques années plus tard, on est retourné faire un film, du coup, un volet 2, en tant que, cette fois-ci, entreprise.
Oui.
Et on avait pour commande, du coup, de justement... aller chercher la parole de ceux qu'on n'entend pas forcément en réunion publique, etc. Donc, ce qu'on a identifié, c'est qu'il nous manquait des... ce qui manquait comme parole, c'était souvent celle des jeunes actifs. Donc, on a cherché cette typologie-là. On a cherché aussi... et c'est ça, tout ça, c'est, enfin, la recherche des profils, elle s'est faite beaucoup aussi par nos commanditaires qui nous ont dit, voilà, ces profils-là ont été concertés. Et on a pu le savoir à l'issue du bilan de concertation que la plupart des profils concertés sont ceux-là. Donc du coup, en parallèle d'une démarche du coup de concertation réglementaire, on va aller chercher des profils dans une concertation non réglementaire, des profils représentatifs du quartier, mais qui n'ont pourtant pas été encore consultés.
Et est-ce que ça fonctionne? Quels sont tes trucs pour les amener à venir parler? Qu'est-ce qui fait que je vais, au lieu de dire non, je m'excuse, j'ai pas le temps, je suis pressé, ou au contraire, je me méfie, qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce que c'est pas un traquenard, ou quels sont vos trucs pour amener les gens qui ne sont, en guillemets, pas habituellement consultés, ou qui ne veulent pas, ou n'auraient pas pensé à participer à ces ateliers, pour les faire venir témoigner devant la caméra?
Déjà, moi, je trouve qu'il y a aussi un biais. C'est qu'on arrive, donc tu vois, si je devais catégoriser le truc, ça ferait qu'il y a les gens qu'on arrive facilement à concerter et qui se rendent facilement en réunion publique. Il y a les gens qui ne se rendent pas en réunion publique et qu'on a du mal à concerter, mais qui sont globalement, tu vois, qui sont inscrits dans la société et qui ont une place par leur travail, et donc qui sont facilement quand même captables. Donc honnêtement, c'est eux qu'on arrive à trouver. Ouais. Et puis tu as les gens qui sont à la marge, qui sont plutôt à la marge de la société. Et pour le coup, là, c'est plus difficile de les capter. Et je pense que nous, dans notre, tu vois, dans notre pratique, je suis pas sûre qu'on ait capté beaucoup de ces profils-là, qui sont vraiment les profils les plus précaires, éloignés du marché du travail, etc. Ça, c'est plus difficile. Parce que, tu vois, ceux qui fréquentent les centres sociaux, ça reste quand même des gens qui sont quand même intégrés à la société et qui, tu vois, qui fréquentent les services que la ville propose, etc. C'est difficile d'aller capter des profils extrêmement éloigné, à moins de, et ça on le fait, d'aller vers les gens, d'aller en pied d'immeuble ou d'aller les rencontrer, ces gens-là, en fait, là où ils sont, en fait, tout simplement. Mais donc, du coup, voilà, ce que je dirais, c'est que comment on arrive à les capter et comment on arrive à rencontrer ces gens, même si on n'arrive pas à rencontrer tout le monde non plus, c'est quand même parce qu'on se rend disponible aussi pour eux. C'est que quand on propose une situation d'interview, c'est aussi un échange intime, individuel, donc ils se sentent plus à même de pouvoir s'exprimer, etc. Puis le fait de les avoir choisis, d'avoir peut-être ce sentiment d'être élu, fait qu'ils ont aussi une légitimité qui leur est donnée par ça. Et il y a effectivement le fait de choisir avec eux un créneau qui leur convienne. Donc forcément, bah, c'est pas forcément à 14h le jeudi à l'heure où on travaille, mais c'est plutôt en fin de journée, c'est plutôt pendant les périodes scolaires, c'est plutôt en week-end, etc. Et donc c'est aussi ça qui fait que qu'on arrive à les approcher, ces gens-là. C'est, je dirais, pas mal la disponibilité et puis le fait de... parce que c'est quand même des temps... Enfin, on s'inscrit sur des temps citoyens pour eux. Et clairement, une fois qu'ils ont travaillé, une fois qu'ils ont préparé la nourriture pour leur famille, une fois qu'ils ont dormi, il ne reste pas beaucoup de temps, en fait, disponible pour tout le reste. Et c'est, on s'adapte c'est clair. Au calendrier, quoi.
C'est exactement ce que je cherchais, cette démarche-là, qui n'est pas nécessairement formalisée ou formelle, mais de, entre guillemets, se rendre disponible. J'ai eu des métiers, moi, de quand j'étais plus jeune, des jobs d'été, entre guillemets, ou des jobs étudiants, où je faisais des relevés de compteurs d'eau, où je faisais des recensements pour des élections, des choses comme ça, pour bâtir les listes électorales au Canada. Et donc, effectivement, il faut aller quand les gens sont disponibles. Donc, c'est soir et week-end. Donc, c'est pas, ça faisait partie du... Et puis, c'est là où on voit, comme tu viens de le dire, toute la diversité d'un territoire. Alga Médiation, ça fait plus de 3 ans que ça fonctionne. Enfin, moi, t'entendre, ça m'enthousiasme toujours énormément. Et quels ont été les facteurs clés de succès dans cette aventure-là entre toi et ton associé? Est-ce que c'est des entités? Est-ce que c'est des ressources? Est-ce que c'est des personnes? C'est les encouragements de vos proches? Est-ce que c'est beaucoup de patience? Qu'est-ce qui a, si tu identifiais un, deux ou trois facteurs clés de succès d'Alga Médiation aujourd'hui, parce que je vois vous recruter, qu'est-ce que c'est?
Il y en a beaucoup. Mais je dirais déjà, c'est, je dirais de un, c'est la force de notre duo, c'est d'être, de beaucoup s'entraider et d'être beaucoup dans l'écoute et aussi d'avoir des techniques de concertation et de facilitation entre nous et de prendre soin en fait de notre association.
Ouais.
Et c'est une vraie force d'être à deux quand même, que d'être seul. Enfin, en fait, vraiment, c'est fou. Mais il y a tellement de choses à dire aussi. Enfin, il y a aussi effectivement les proches. Au début, c'est forcément quand on est. En plus, on était étudiante. On était très jeune quand on a monté l'entreprise. On avait respectivement 23 et 24 ans. Donc c'était un peu fou de faire ça. Donc du coup, on a eu quand même pas mal de soutien de notre famille, de nos familles respectives, de nos proches. De tout l'entourage et je dirais aussi ce qui a été facteur clé, je pense, c'est aussi beaucoup de s'entourer d'accompagnants du domaine, de tous les domaines en fait. Et on a été, en fait, quand on était étudiante, on a obtenu le statut étudiant-entrepreneur qui est vraiment très intéressant, qui permet gratuitement d'avoir accès à un accompagnement mois par mois pour développer l'entreprise. Et en même temps, on a passé un diplôme d'étudiant-entrepreneur. Et après, on s'est aussi, on est rentré dans une pépinière d'entreprise où on a eu un accompagnement aussi mois par mois avec une coach qui est formidable et qui est à Darwin, c'est le campement à Darwin à Bordeaux. Et on a aussi, du coup, grâce à ce biais, accès à beaucoup d'accompagnants, des accompagnateurs autour des questions du management, RH, compta, tout, commercial, etc. Ouais. Et ça nous a beaucoup
fiscalité,
aidé.
Tout ça,
ça nous a beaucoup aidé à nous structurer parce qu'en fait, on venait toutes les deux du milieu des sciences humaines et sociales, donc avec aucune notion de commercial, de comptabilité et tout ça. Et donc, du coup, ça nous a vraiment, vraiment aidé. Donc, je dirais que ces trois facteurs-là, on n'en citait que trois.
Si tu pouvais changer une chose dans ton aventure jusqu'ici, qu'est-ce que ce serait?
La seule chose, je pense, que je changerais, c'est que l'année dernière, j'ai eu une petite période quand même de gros coups de mou pré-burnout ou je ne sais pas trop quoi, mais un truc dans le genre. Et mon associée aussi, elle a vécu ça. Et du coup, je pense que la seule chose que je changerais, c'est vraiment de faire prendre soin de soi et de faire attention et de gérer son emploi du temps et de prévoir. Enfin, nous, on avait pas mal. Mm-hmm. En fait, on avait pas mal. On a pas mal tendance. C'est aussi le facteur clé, je pense, de notre entreprise. Mais on a pas mal tendance à dire oui à beaucoup de choses parce qu'on est très très intéressé pour développer de nouveaux projets. Mais ça demande beaucoup de gestion. Et de gestion du temps de travail. Mmh. Et je pense qu'on a vendu beaucoup trop de cours ou mal évalué. Et donc, du coup, je pense que ce serait ça. C'est peut-être mieux évaluer le temps consacré, tu vois, et de pas avoir peur aussi de se dire, parce que c'est le début aussi de notre activité, on a vendu tant de jours, mais en fait, on va en faire plus parce qu'on sait qu'on a besoin de plus de temps, en fait. Et de l'anticiper, du coup.
Oui, descendre cette courbe d'apprentissage.
Oui, exactement.
Ouais. Ouais. Alors, je reviens à la vidéo comme élément de médiation. J'ai découvert récemment toutes les vertus des objets frontières. Je vais citer Frédéric Rousseau, je vais citer quelques autres dans le podcast qui sont venus en parler. Mais c'est une chose d'en parler, c'est une chose de l'écouter, c'est autre chose de le faire. Et là, tu me parles de la vidéo, entre guillemets, comme objet frontière pour justement faciliter cet échange. En quoi est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Moi, j'aime bien le podcast parce que ça mobilise qu'un seul sens, mais la vidéo, ça mobilise déjà deux sens. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien, la vidéo, pour ce que vous faites?
Oui. Je pense que ça fonctionne bien pour plein de points et à plusieurs étapes. En fait, déjà, quand on est en fabrication et quand on fait une vidéo comme ça, ça rassemble pas mal d'acteurs autour du... Acteur, pas au sens cinéma, mais de personnes autour de ce projet-là. Mm-hmm. À la fois des personnes qui avec qui on fait les situations d'interview, à la fois les personnes aussi qui participent au projet, parce qu'on fait pas mal de films documentaires participatifs aussi. Donc, on implique les citoyens aussi. Pour Sège, on l'avait pas tellement fait, mais pour les prochains et pour Émoutier, notre deuxième aussi film, on l'a pas mal fait. On essaie d'impliquer un maximum les citoyens dès l'écriture du scénario. Donc, en fait, il y a aussi une notion de médiation tout au long, en fait, de l'écriture du film jusqu'à sa diffusion. Et en fait, donc il y a l'écriture et du projet. Et je pense qu'il y a aussi dans un deuxième temps, il y a aussi le fait qu'en fait une vidéo et nous la manière dont on le fait, c'est vraiment aussi notre peut-être différence par rapport à d'autres personnes qui réaliseraient des reportages ou on s'inscrit vraiment pas dans cette mouvance là. On est plutôt dans une mouvance de films documentaires de création. Donc l'idée, c'est vraiment en fait d'essayer d'apporter un côté esthétique et émotionnel et sensible que n'aurait pas le reportage qui est assez factuel et formaté. Voilà. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça que l'objet vidéo fonctionne en médiation. C'est parce que pour que la médiation se fasse aussi, le fait de recueillir des émotions et les partager. Ça permet de faire d'apaiser aussi les conflits, ça permet d'apaiser des situations qui peuvent être des fois un peu tendues. Et on l'a vu par exemple pour le film Sège, qui est un film sur un projet urbain qui est quand même assez décrié par une partie de la population. C'était assez intéressant de voir ce film projeté en réunion publique parce que les habitants avaient tous eu au cours de ce film la parole. Tous eu au sens de à la fois des avis positifs et à la fois des avis négatifs se retrouver dans le film. Donc tout le monde pouvait en fait s'entendre finalement au travers de ce film. Du coup, à l'issue de la projection, tous les habitants se disaient « Ah, c'est super, c'est intéressant, ça fait parler tout le monde. » On se rend compte qu'en fait, la réalité, elle est un peu mitigée, elle est entre les uns et les autres. Et du coup, ça permet de faire que tout le monde attende 10 minutes et s'écoute les uns les autres, alors que c'est pas forcément le cas autrement. En fait, je trouve que ça permet une vraie qualité d'écoute et une vraie qualité d'empathie, en fait. Voilà.
Peux-tu nous parler justement, parce que c'est exactement ça dont l'objet frontière sert à canaliser, entre guillemets, les émotions. Les émotions sont dirigées vers l'objet frontière. La critique est orientée vers l'objet et non pas vers la personne ou vers les personnes ou les groupes ou les associations. Est-ce que tu vois ça fonctionner aussi avec les décideurs, les commanditaires, ceux qui impulsent, disons, un projet quelconque?
Oui.
Quand ils voient le film.
Oui, carrément. Mais c'est toujours chouette de voir les commanditaires, parce que souvent, c'est des grands décideurs. Enfin, ça reste... C'est soit des élus, soit des... Ouais. Soit ça peut être des directeurs, des bailleurs sociaux, des promoteurs, etc. Mmh. Et en plus, alors qu'on pourrait leur prêter peut-être un costume pas empathique, ou qu'on pourrait imaginer qu'ils sont des dirigeants froids, en fait, le film, souvent, ça permet de... Enfin, souvent, on entend comme retour de leur part que... c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, c'est des regards et des points de vue qu'ils n'ont pas forcément entendus auparavant, parce que ça leur a été rapporté, mais de manière assez interposée, enfin, assez lointaine. Et donc, du coup, la manière en plus dont on essaie de créer les films documentaires, c'est vraiment fait pour émouvoir. On essaye de pas mal ajouter de la musique, de textes, de textes poétiques, slam, etc. Et donc, du coup, il y a vraiment un côté très artistique et sensible. Et donc, du coup, effectivement, on sent que ça change leur regard. On sent que ça change, en tout cas, qu'ils éprouvent de l'empathie. Et du coup, on sent ça. Maintenant, est-ce qu'on sent que ça influe sur leur prise de décision? Ça, je pense que je manque de recul, et j'aimerais bien trouver un indicateur qui nous permettrait justement de pouvoir l'évaluer, ça. Mais pour l'instant, je peux pas le dire, quoi. Mais je sens ça change leur regard, en tout cas.
Ouais. Ouais, le foutu KPI, on cherche encore un KPI. Je vais revenir là-dessus. C'est trop important, notamment parce que ce qui crée de la valeur est parfois très difficile à mesurer, alors que ce qui rend les choses visibles et, entre guillemets, faciles ou qui montrent un progrès sont souvent faciles à mesurer, mais ne créent pas nécessairement énormément de valeur. Mais ça, c'est une parenthèse. Vous devez faire un peu de R&D, entre guillemets, formel ou informel. Où est-ce que vous orientez vos investissements, vos efforts de recherche et ou de développement pour Alga Médiation ces temps-ci?
Alors, ces temps-ci, en fait, on fait pas mal de R&D. Effectivement, en fait, notre vie est une R&D, je pense, parce qu'on passe notre temps à expérimenter. Et c'est vraiment aussi, d'ailleurs, notre... Ce qu'on dit auprès de nos clients, enfin, on ne cuisine jamais la même recette, et donc on passe notre temps à essayer de prendre le meilleur de ce qu'on a vécu et de l'injecter dans de la nouveauté et dans toujours de l'innovation, en fait. Ouais. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, on investit de la R&D dans à peu près tout, dans tous les secteurs de la boîte en termes de production. Ouais. Mais en fait, ce qu'on essaie de faire là, c'est on essaye aussi de diversifier de diversifier nos clients aussi, parce qu'on a pas mal de collectivités, donc de publics, et aussi pas mal de laboratoires de recherche. Mais on essaie vraiment de diversifier aussi vers des clients privés, et notamment pour faire du film documentaire et pour des entreprises plutôt de l'ESS, parce qu'on tient à avoir des valeurs fortes. Mais on cherche aussi à développer l'audiovisuel et la médiation et la facilitation vers ces secteurs-là. Voilà. Ouais. Mais notre vie est de la R&D, vraiment.
Ça va devenir un classique, notre vie est de la R&D. un dernier conseil, Agathe, un conseil que tu donnerais aux innovateurs, aux entrepreneurs qui nous écoutent ou à ceux qui ont l'impression que leur vie est de la R&D, mais qu'elle ne paye pas encore, qu'est-ce que tu leur dis?
Je leur dis, en réalité, moi, ce que j'en ai retiré quand même comme leçon, c'est que ça peut pas être non plus que de la R&D tout le temps, constamment, sinon on s'y épuise. C'était un peu la situation dans laquelle j'étais l'année dernière. Mais c'est important aussi d'avoir, en fait, de quand même poser un socle solide sur lequel on peut ajouter et implémenter de la R&D. Mais de remobiliser quand même les choses qu'on sait faire, qui marchent, qui ont prouvé leur effet. et d'y ajouter dessus la R&D. Et maintenant, cette année-là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, c'est très agréable parce qu'il y a plus, plus cette vague qui nous prend. Mais du coup, c'est plus confortable à vivre. Donc, c'est ce que je donnerais comme conseil. Et pour cela, se faire accompagner, du coup. Vraiment.
Ben oui, c'est super. Écoute, Agathe, ça a été extraordinaire de te poser, d'écouter tes réponses, de poser ces questions et d'écouter tes réponses. Merci beaucoup, Agathe. À très bientôt.
À très bientôt. Merci, Jean-François.
J'espère que cet épisode vous a plu. Cet entretien est né de cette envie de mieux comprendre les moyens d'augmenter la participation dans les projets. Que ce soit en matière de projet, de stratégie, de changement, les approches participatives ont des atouts majeurs à faire valoir. C'est aussi la diversité de cette participation qui constitue un des facteurs clés de succès de ces approches. Et ce podcast nous montre très bien qu'un outil comme la création audiovisuelle peut aider à faire parler et à faire écouter ou s'écouter des parties prenantes parfois éloignées les unes des autres. J'en profite aussi pour vous inciter à réécouter les podcasts 133, 113, 111 et 85 avec respectivement Patrick Norinberg, Alban Pelechko, Valérie Lehmann et Frédéric Rousseau qui nous parlent de ces sujets et de certains thèmes que nous avons développés lors de ce podcast. Je vous invite finalement à consulter les liens dans la description pour accéder aux notes de l'épisode et pour vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Nous y partageons nos perspectives pour vous aider à développer vos compétences stratégiques et vous permettre de développer la croissance durable de vos organisations. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.